preneur. Bon.
Top bien. Preneur.
Alors effectivement, oui, c'est un petit peu la tâche de l'universitaire de service de redire ce que les gens ont déjà dit, hein, finalement. C'est le principe sur les gens qui travaillent sur ce que d'autres personnes ont fait. Voilà. Mais alors, donc, évidemment, beaucoup de choses ont déjà été dites qui mettent en valeur la place de Roland Wagner dans la science-fiction française. Alors, quand on dit science-fiction française, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La science-fiction française, en un sens, c'est vous. C'est la littérature qui est produite. C'est les éditeurs, c'est les auteurs, c'est les lecteurs. Bon. Mais en fait, Roland était un petit peu, comme on l'a vu, lié à tout cet édifice-là. Pas nécessairement comme acteur, mais en tout cas, enfin du moins, pas directement, mais comme personnalité, comme influence. C'était quelqu'un qui a influencé un petit peu toutes les personnes qu'il rencontrait, et comme l'a dit, je crois que c'était Claude Eken, ça c'est revenu sur à plusieurs reprises, c'était quelqu'un qui parlait avec tout le monde. C'était quelqu'un qui avait des liens avec un peu tout le monde. Et même, j'imagine, je ne le connais pas assez personnellement pour dire ça, mais y compris avec des gens avec lesquels il ne s'entendait pas forcément très... c'était pas forcément un ami de tout le monde, mais même les gens avec lesquels il ne s'entendait pas forcément beaucoup, eh bien, il avait de bons rapports, et il savait, du moins ça c'est ce qu'on m'a rapporté, il savait en général... capter la bonne volonté d'un peu tout le monde, en fait. Bon, donc ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Et ce que j'aimerais évoquer un petit peu pour terminer ici, puisqu'on a beaucoup parlé finalement du Roland qui a vécu, du Roland dont on se souvient, et j'aimerais parler un petit peu du Roland qui restera, du moins... proposer un certain nombre d'hypothèses, d'éléments pour parler du Roland qui restera. Alors évidemment, il y a le Roland qui reste dans votre souvenir à chacun et dont on peut parler encore maintenant, et il y a l'écrivain. Alors, l'écrivain Roland Wagner, c'est, comme c'est apparu dans plusieurs des témoignages aujourd'hui, c'est une personnalité engagée à plusieurs niveaux. Engagée dans le fandom, ça, on l'a dit et redit, mais ça, c'est caractéristique de sa personnalité, me semble-t-il, que son engagement dans le fandom ne s'est pas limité à participer, être présent, être très actif, mais il a écrit sur le fandom. C'est-à-dire que finalement, sa vie de fan est devenue la source d'une inspiration littéraire. Et on l'a dit, et je ne l'analyserai pas ici, sa vie et ses expériences ont rejailli dans son œuvre, à tel point qu'on peut faire assez facilement des lectures biographiques d'un certain nombre d'éléments. On a parlé des rock clubs tout à l'heure, Pascal Thomas a parlé de la musique. Bon, il y a de très nombreux éléments qui sont insufflés par Roland Wagner dans son existence, de son existence dans son œuvre. Alors, ça a été dit également, mais je le redit pour bien que ce soit posé, c'est une certaine science-fiction au départ, Roland Wagner. Une science-fiction populaire, qu'il n'a cessé de défendre, qu'il n'a cessé d'apporter, parce que, et c'est une logique qui a été pour lui indéfectible, c'est une science-fiction d'un seul bloc. La science-fiction pour lui, c'est aussi bien la science-fiction populaire du Fleuve Noir que les œuvres les plus ambitieuses éventuellement sur le plan littéraire. Pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas sortir de la science-fiction. Et il critiquait de ce point de vue-là, il a critiqué justement la prétention à une certaine transcendance. Pour lui, il n'y a pas de transcendance, on ne peut pas transcender la science-fiction. On est de toute façon dans la science-fiction, même si on a des prétentions littéraires éventuellement. Et donc, il n'y a pas d'infra-science-fiction ou de super-science-fiction, il n'y a qu'un seul élément. Et de ce point de vue-là, lui, en tant qu'auteur, me semble représentatif justement aussi bien de la science-fiction dans ce qu'elle a de plus populaire, de plus brut dans ses premières œuvres, que de ce que la science-fiction peut produire de meilleur en termes d'écriture. Évidemment, on peut superposer à cette idée-là la propre carrière de Roland. puisque son engagement dans la science-fiction, c'est un engagement personnel, un engagement dans son écriture, qui a fait que ses textes ont été de plus en plus raffinés, de plus en plus aboutis au fur et à mesure qu'il est avancé dans sa carrière. Et une autre caractéristique très importante, me semble-t-il, de Roman Wagner, c'est son sens du collectif. Alors, c'est un peu particulier parce que quand on observe de loin, comme puisque je n'ai jamais été très proche de Roland, même si j'ai eu l'occasion de le fréquenter, notamment à Pérez, que certaines photos ici le montrent, de loin, Roland, c'est une personnalité. C'est quelqu'un qui en impose et dont on se dit forcément qu'il a un ego extrêmement important. Et alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'avait pas d'ego. C'était quelqu'un qui était sûr de lui. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça n'empêche pas que, un peu à la manière du chanteur vedette de tel ou tel groupe, ça n'empêche pas qu'il jouait pour le groupe. Il jouait pour la science-fiction dans son ensemble. Il ne cherchait pas à se faire valoir par rapport à d'autres, il cherchait à trouver sa place et sa valeur dans une harmonie généralisée qui était celle de la science-fiction. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il jouait pour se mettre en avant, eh bien, ça n'était pas pour s'imposer aux dépens d'autres personnes, mais au contraire, pour apporter quelque chose au collectif de la science-fiction. Alors, il y a de très nombreux éléments permettent d'établir ceci. Il y a des petits détails qui me semblent assez révélateurs. C'est que, par exemple, on mentionnait tout à l'heure, et ça me semble assez caractéristique, le fait qu'il s'est, au moins dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, il se détache, en même temps que le reste de la science-fiction française, il se détache d'un paradigme de l'ultra-violence, un paradigme de l'apocalypse un peu permanente, pour arriver, donc ça c'est un petit peu la caractéristique des années 80, dans la science-fiction française, on va assez loin dans la violence, dans la cruauté, infligée notamment au personnage, lui s'en détache en même temps qu'un certain nombre d'auteurs, et il va vers une logique d'histoire du futur. Sauf que pour lui, il n'écrit pas une histoire du futur, il écrit une histoire d'un futur. C'est-à-dire que dès le départ, dans sa logique à lui, il n'écrit qu'une variante. Il ne prétend pas, il s'inscrit dans une tradition qui est celle d'un Heinlein par exemple, la logique de l'histoire du futur, mais il ne prétend pas écrire le futur tel qu'il sera, en imposant sa version, mais il propose une version parmi d'autres. Et finalement, cette version parmi d'autres, c'est une version qui dialogue avec un certain nombre de textes. C'est un détail parmi d'autres, de ce point de vue-là, mais cet aspect collectif, cette importance pour lui de la collectivité de l'écriture, apparaît dans de très nombreux témoignages. On a mentionné aussi l'adopie tout à l'heure, sa lutte contre l'adopie. Quand il écrit « Nous, le peuple de la science-fiction », et qu'il est dans une logique de pétition, dans une logique de lettre ouverte, mais qui engage potentiellement, et les signatures qui ont accompagné ce texte sont extrêmement nombreuses et variées, mais il est dans une logique où il ne s'agit pas de dire « Moi, Roland Wagner, qui vais prédire l'avenir », il s'agit de dire « Nous, les auteurs », et il s'efface derrière cette collectivité. Il ne prétend pas parler pour les autres. Il se trouve qu'il saisit la plume avec d'autres et qu'il se saisit d'un combat, mais ça n'est pas en tant qu'individu, c'est en tant que membre d'une collectivité. Et de la même manière, c'est assez frappant parce que donc c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à faire valoir ce qu'il pensait, qui n'hésite pas à mettre en avant sa culture, parce qu'il était, on l'a dit et redit, extrêmement cultivé en matière de science-fiction, notamment aussi bien populaire d'ailleurs que dans toute la populaire française que dans la science-fiction américaine qu'il connaissait extrêmement bien. Dans l'expérience renouvelée chaque année des journées interdisciplinaires de Peresc, qui sont consacrées donc au rapport science et fiction, science et science-fiction, bref. La présence de Roland a toujours été une présence extrêmement bénéfique et discrète. C'est-à-dire qu'il écoutait. De temps en temps, il explosait un peu pour dire « Non mais attendez, il faut rectifier quelque chose. » Mais à aucun moment, il n'avait l'ambition de voler la vedette à qui que ce soit, encore une fois. Sa logique était de contribuer. Et il écoutait énormément et très précisément ce que disaient les autres. Il ne démordait jamais de sa position, ça c'est sûr, quand il avait une idée, il n'en démordait pas, mais il écoutait et il était d'accord pour aller dans la nuance. C'est-à-dire que autant ses prises de parole, notamment, enfin de position, notamment par exemple sur les forums, sur Internet, pouvaient être assez radicales et brutales, autant en fait, il y avait une très grande subtilité dans toutes ses positions, et c'était quelqu'un qui savait écouter et qui était là donc plutôt pour participer que pour donc faire valoir ses idées à proprement parler. De ce point de vue-là, la logique même de sa présence à Pérès, c'était un des moteurs principaux de cette logique de discussion. Il faut dire que dans les milieux que fréquentait Roland, il y avait aussi, en fait, du coup, le milieu qu'on a finalement peu sollicité jusqu'ici, en fait, le milieu, en fait, de la recherche. Il était très intéressé, et son blog Génération Science-Fiction était une manière pour lui de constituer un patrimoine intellectuel de la critique sur la science-fiction. Parce qu'il ne voulait pas que disparaisse un certain nombre de réflexions, parce que pour lui, la science-fiction, ça n'était pas seulement lire, ça n'était pas seulement écrire, ce n'est pas seulement l'expérience esthétique, c'était toutes les réflexions qui en étaient produites. Et pour lui, participer à Pérès, c'était notamment participer à ce type de choses. Et alors, de ce point de vue-là, il y aurait l'occasion de le dire à un autre moment, mais bon, je ne sais pas très bien comment je vais tenir mon temps. De ce point de vue-là, il y a un volume collectif de Péresque, justement, notamment par les Bellagamba et Pichol, qui sont, vous connaissez, dans lequel nous essayons de rendre hommage à cet esprit, tout ce qui chez Roland Wagner s'accroche à d'autres choses, tout ce qui correspond à sa culture, à sa recherche dans son œuvre. Alors, la place de Roland dans la science-fiction française, c'est pas seulement la place de l'homme, c'est la place de l'auteur, la place de Wagner, de RCW. Si je peux proposer quelques pistes pour situer son œuvre dans la science-fiction française, ce serait les suivantes. D'abord, c'est quelqu'un qui a reconnu de façon manifeste un certain nombre d'influences qu'il a revendiquées, qu'il a mises en avant. Par exemple, c'était mentionné tout à l'heure, celle de Louis Thirion. Alors, Thirion, ça n'était pas seulement pour lui, une de ses premières découvertes de la science-fiction, c'est aussi, me semble-t-il, une influence, il y a un élément de dialogue dans l'écriture de Louis Thirion et dans l'écriture de Roland Wagner, notamment à travers une certaine conception du personnage. Et Roland Wagner lui-même s'exprime là-dessus, même s'il ne dit pas « cela m'a inspiré » ou quoi que ce soit, dans un texte qui s'appelle « Sauf qui peut », que vous pouvez lire facilement sur Internet, sur Noosphère. Dans ce texte-là, il analyse notamment l'œuvre de Thirion. Et il met en avant le fait que un des personnages majeurs de Thirion, qui s'appelle Jordan Mahogan, est un personnage d'un certain type. Alors il le définit comme étant un personnage qui réagit plutôt qu'il n'agit, un personnage qui est à la fois capable d'un dynamisme et en même temps est quelqu'un qui fait attention aux événements qui se produisent et qui essaye d'empêcher les catastrophes plutôt qu'à tout prix imposer son style. En gros, ça, c'est une sorte d'anti-personnage de space opéra. Et en fait, ce modèle de Jordan Mahogan, c'est à des degrés divers, et pas du tout de façon décalquée, mais c'est à des degrés divers le modèle de départ du personnage de space opéra chez Roland Wagner. C'est-à-dire qu'on en retrouve beaucoup de traits. Les personnages qui, effectivement, sont pris dans des événements, qui sont obligés d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je prends par exemple dans la Cine C, Gravite au 21, le personnage de Vipère est un personnage qui au départ est complètement embarqué, alors évidemment ça vient en partie de Jean-Marc Ligny, mais est embarqué dans une histoire qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Il est obligé d'aller livrer des biopuces, en fait ces biopuces sont corrompus, il se trouve obligé de compenser par une autre mission, et au fur et à mesure il comprend les enjeux de ce qu'il se passe. Bon, et ce personnage-là réagit. Et en somme, ce type de personnage qu'on retrouve chez Roland Wagner, ça lui vient en partie, me semble-t-il, de ce type de personnage qu'on peut trouver dans le Fleuve Noir, notamment chez Thirion. Évidemment, une autre influence importante manifeste, c'est Jury, Et le fait que Roland ait pu développer à partir d'une logique générale qui est celle du temps incertain, celle de la chronolyse de Michel Jury, qui ait développé un concept aussi original que la psychosphère, enfin, original au sens où il en a fait quelque chose d'absolument différent à partir d'éléments qui sont clairement des réminiscences de Jury. Eh bien pour moi, ça c'est caractéristique de la manière dont l'esprit de Roland fonctionnait. C'est-à-dire qu'il s'approprie quelque chose qui existe déjà. Il n'y a pas la prétention de créer quelque chose de totalement nouveau. Et pourtant, ce qu'il fait, au total, devient quelque chose qu'on ne peut plus reconnaître comme étant emprunté ou que ce soit précisément. Ça devient quelque chose d'absolument original, d'absolument. De beaucoup plus raffiné qu'une simple reprise. Et ça, c'est une logique qu'on peut retrouver sur de nombreuses caractéristiques. Les personnages les différents toons qu'il peut reprendre ne sont pas des personnages de Tex Avery. Ils en reprennent de nombreuses caractéristiques, et pourtant, ce ne sont pas. Ce sont des créatures de Wagner. Alors, j'évoquais tout à l'heure le paradigme ultra-violent de la science-fiction française des années 80. Eh bien, j'aurais tendance, personnellement, à interpréter les nouvelles de Roland, les nouvelles de Roland Wagner des années 80, comme étant un tribut donné à un paradigme dominant qui ne lui convient pas tout à fait. Alors, c'est un petit peu arrogant de dire ça de moi-même, mais pour faire parler Roland Wagner lui-même, il, en 1994, il dit au détour d'une interview, « Je préfère faire rire que créer le malaise. J'aime que les lecteurs sortent intacts de mes livres. » Or, quand on regarde les sujets de ces nouvelles, notamment des années 80, quand on regarde la cruauté qu'il inflige à ces différents personnages de ses premiers romans, « Les derniers jours de mai » ou Le serpent d'angoisse, eh bien, ce traitement-là va dans le sens du malaise. Alors, Wagner ne se critique pas lui-même, c'est pas de lui-même qu'il parle quand il dit cela, mais j'y vois un indice du fait qu'il a voulu revoir cette propre écriture. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une écriture encore un tout petit peu dominée par un état d'esprit d'une époque, et ce n'est qu'en se dégageant peu à peu de cet état d'esprit, à la faveur notamment de l'histoire du futur, qui est à ce moment-là, dans les années 90, un nouvel élan pour la science-fiction française, eh bien, il peut affirmer son style, et notamment en revenant sur cette cruauté, sur cette violence, qui était en partie inspirée par son quotidien, qui était inspirée par l'environnement de la science-fiction française, les tendances de la science-fiction française à l'époque, mais il a justement cette capacité à revenir sur sa propre œuvre, se la réapproprier et réécrire la logique même de son œuvre, c'est-à-dire notamment transformer Les derniers jours de mai, qui est un texte d'une cruauté extraordinaire qui se termine, désolé pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais qui se termine par la destruction de l'humanité aux mains de l'anti-héros qui était, enfin à l'esprit de l'anti-héros qui est Killer, qui revient ensuite assez souvent. Eh bien, il transforme cette fin-là en une sorte de rêve prémonitoire. Il revient sur sa propre violence, en quelque sorte. Et il choisit de donner la possibilité d'annuler cette violence. Et de ce point de vue-là, la catharsis se produit tout à fait avec les futurs mystères de Paris, qui sont, me semble-t-il, le moment où réellement Roland Wagner est devenu, enfin, a pris totalement ses distances avec toute autre science-fiction. C'est-à-dire, c'est le moment où réellement il écrit pour lui-même, par lui-même, en affirmant son propre style. Et c'est ce qui a été reconnu de toute façon, de manière générale. C'est le moment où réellement les critiques ont un peu cessé de dire « il faudrait quelque chose de plus, il faudrait quelque chose de mieux ». Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les textes précédents n'étaient pas aboutis, mais Poupée aux yeux morts, qui est un de ses meilleurs textes avant cela, il a quand même repris de façon importante ensuite. Il n'en était pas totalement satisfait, semble-t-il. Alors, il y aurait un certain nombre d'éléments supplémentaires à donner, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'aimerais, alors donc, dans le fait qu'il se réinvente dans les futurs mystères de Paris, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre d'éléments, et notamment, juste pour les futurs ministères de Paris, alors évidemment, tout le monde peut se faire un avis sur ce cycle. Tout le monde le connaît bien, je pense que c'est ce qui est un peu le mieux connu de Roland jusqu'à Rêve de gloire, bien sûr. Mais simplement indiquer qu'il y a un coup de force extraordinaire dans les futurs ministères de Paris. Ça a déjà été repéré, bien sûr. Mais il y a un coup de force extraordinaire qui consiste à faire du cyberpunk en renversant la totalité du cyberpunk. C'est-à-dire qu'on a des grandes multinationales qui contrôlent la planète, mais bon, en fait, finalement, elles sont plutôt ridicules et incapables de vraiment se gérer elles-mêmes. On a des intelligences artificielles qui atteignent un point de singularité qui, quand on voit le modèle de Muet d'hiver, par exemple, chez Gibson, c'est le modèle de la grande menace du cyberpunk. Non, pas du tout. Ce sont finalement des individus tout à fait amusants, comme Gloria. Alors, Gloria a sa personnalité, essaye d'imposer sa voix à l'espèce humaine, mais c'est dans une logique d'échange. C'est-à-dire, finalement, il ne s'agit pas de dire les AIA, contrôler l'humanité, il s'agit de dire nous existons les AIA, il faut nous reconnaître des droits, on veut des droits sociaux. Finalement, c'est les combats de la société transposés aux intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'il y a une manière de continuité. Donc ce coup de force-là, c'est-à-dire une façon de renverser totalement le cyberpunk, c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, fait une originalité extraordinaire. Et qui n'est pas quelque chose qui, pour le coup, tranche sur ce qui peut être fait à la même époque en France. Et d'une manière générale, dans les années 2000, je dirais que le chemin que suit Roland Wagner est à la fois en prise sur ce qui se fait dans la science-fiction, puisque, comme ça a été dit, il était très au courant et il communiquait avec de très nombreux groupes y compris hors de la science-fiction. La voie qu'il trace est toujours une voie extrêmement personnelle. Et il me semble que ce qu'on peut déterminer dans les années 2000, c'est justement il y a plusieurs romans qui sont, je dirais presque des sortes d'exercices de style qui en même temps sont des points culminants d'un certain type de texte. Je pense à La saison de la sorcière qui propose une forme de fantaisie urbaine qui va dans une direction que la fantaisie urbaine n'explore pas vraiment. Bon, je ne détaille pas, je n'ai pas le temps. Et évidemment, je pense là à Rêve de gloire, parce que Rêve de gloire, c'est quand même la caractéristique. Il y a LGM avant qui prépare en quelque sorte cette chose-là, mais il y a ce travail sur l'uchronie, sur l'idée d'une histoire parallèle. Qui est quelque chose qui traverse dans les années 2000 la science-fiction française. Et dans ce qu'essaye de faire Roland Wagner à la fois dans LGM et dans Rêve de gloire, il y a cette idée de produire quelque chose qui ne serait pas seulement une histoire, mais qui serait vraiment de l'histoire. C'est-à-dire de l'histoire, c'est-à-dire une sorte de condensé de deux différents documents historiques qui, d'une certaine manière, pourrait être utilisé comme matériau, et c'est surtout pour Rêve de gloire, pourrait être utilisé comme matériau pour des historiens. C'est-à-dire que des historiens pourraient sérieusement prendre les différents témoignages de Rêve de gloire comme matériau de départ pour proposer un travail sur non seulement les événements, mais surtout sur la culture d'une époque, sur la manière dont la manière dont on vit à une époque, c'est-à-dire vraiment faire une histoire, mais une histoire de la vie d'une époque, et non pas simplement une histoire qui suit tel ou tel événement. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette histoire du disque qu'on suit dans Rêve de gloire, qui est en fait une fausse intrigue, qui est quand même extraordinaire, parce qu'elle tient en haleine d'un bout à l'autre, et le final est assez bouleversant en un sens. Mais c'est quand même une fausse intrigue, c'est-à-dire que ce qu'il y a à découvrir dans ce disque, c'est finalement ce qu'en tant que lecteur, on a reconstitué pendant toute la lecture. Donc on a résolu l'intrigue mieux, d'une certaine façon, que les personnages qui l'ont suivi. Alors, je crois que je n'ai pas tellement de temps.
C'est terminé.
Voilà, c'est terminé. Je dirais simplement, en trois mots, qu'il y aurait, parmi les pistes d'analyse pour des recherches universitaires, Il y a trois choses qui me semblent cruciales dans les futures études qui pourront être faites sur l'écriture de Roland Wagner. La trame, la ramification des différents thèmes qu'il utilise et le rapport complexe qu'il entretient avec les thématiques scientifiques. Le deuxième aspect, c'est son écriture faussement simple, qui est un moyen très puissant d'entraîner le lecteur dans son texte sans qu'on se rende compte vraiment de ce qui se passe. C'est-à-dire on se rend compte des événements, mais on ne comprend pas vraiment à la lecture. On y a besoin de relire pour vraiment comprendre par quel mécanisme il parvient à enchaîner le lecteur sur finalement des événements parfois sans aucun enjeu. Finalement, on raconte la journée de tel ou tel personnage et on la lit de façon palpitante. Et le troisième aspect, évidemment, qui a été pour le coup déjà évoqué, mais qui est d'une complexité assez extraordinaire, c'est la question de l'humour chez Wagner, qui est toujours en tension entre un aspect ludique et un aspect sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de thèse lourde sans éclairage humoristique, et il n'y a jamais vraiment de plaisanterie sans qu'il y ait un enjeu, soit au niveau du texte, soit au niveau plus général des idées de Roland Wagner.